Bienvenue dans Super Potion, le magazine digital dédié au secteur food and beverage. Je suis Ludovic Mornant, fondateur du podcast et exorciste de marque chez Studio Blackthorns. Oui, exorciste, mes clients parlent de nos accompagnements comme de véritables séances d'introspection, comprendre, transformer, révéler. Chez Studio Blackthorns, nous forgeons les récits des marques qui osent. Refonte d'identité visuelle, stratégie de positionnement, packaging, communication digitale ou intégration de solutions d'IA génératives dans votre business, chaque projet brise les blocages, résout les défis et sublime votre vision en une marque iconique et inoubliable. Objectif, cohérence, puissance, croissance. Mais soyons clairs, mon agence n'est pas pour tout le monde. Mon credo, marque timide, s'abstenir. Pourtant, je suis convaincu que chaque marque a un potentiel qui attend d'être révélé. Et toi, qui m'écoutes, c'est peut-être le moment d'oser. Allez, sans plus tarder, voici Super Potion, un élixir d'innovation pour sublimer vos créations. Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans Super Potion. Aujourd'hui, un épisode spécial Tendance Spiritueux 2025, le fameux, avec Fred Rojinska. Salut Fred.
Hello, hello, salut Ludovic. Bonjour à tous, bonne année à tous.
Ouais. Meilleurs vœux. Est-ce que tu peux rappeler qui tu es à nos auditeurs s'ils ne te connaissent pas encore ?
Donc je suis Frédéric Rojinska, je suis le fondateur de distilnews.fr et de barnews.fr et puis d'autres petits trucs, mais essentiellement liés, tout ce qui est médias liés à l'actualité des spiritueux et du monde du bar au quotidien.
Ok, top. Donc vous pouvez aller checker ça, distilnews, barnews, abonnez-vous à sa newsletter, ça vaut de l'or, c'est envoyé toutes les semaines.
Avec grand plaisir.
Envoie toutes les semaines et potentiellement tu as des offres daily aussi que...
Exactement, pour une veille quotidienne, être au plus près de l'actu et de tout ce qui se fait, toutes les tendances justement, voilà.
Ok, top. Et accessoirement, tu es aussi mon acolyte de The Bottlefield Show, donc notre podcast side project à côté qui parle de boissons, de spiritueux, mais tout ça mêlé avec la nouvelle technologie, l'IA, la réalité augmentée, enfin tout ce qui peut être un peu tech sur les bords et entrepreneurial.
Exactement, tout ce qui se boit et qui est sur un ordinateur.
Yes. Alors, beaucoup de choses dans ce nouvel épisode, dans cet épisode de l'année. On va dire que les épisodes tendance, c'est toujours les épisodes les plus écoutés par les auditeurs. Pas forcément les plus intéressants, quoique, on va voir qu'il y a énormément de choses à dire.
Vend le mieux, là, ton épisode.
Ouais. Donc,
non, c'est le plus intéressant, ok ? Vous restez bien à l'écoute.
C'est le plus intéressant, excuse-moi. Donc, j'en ai déjà fait un avec les tendances brassicoles avec Théodore Beccard de Brewing Theory. Donc, si vous ne l'avez toujours pas écouté, que la bière et les sans-alcool potentiellement ou d'autres alternatives à la bière peuvent vous intéresser, écoutez-le. Et aujourd'hui, ça va être spiritueux. Donc comment est-ce qu'on a décortiqué cet épisode, sachant qu'il y a énormément de choses à raconter, à dire, pas mal d'axes. Tout simplement, on a repris le rapport de Diageo 2025, qui est sensiblement le même, en tout cas ils ont gardé la même trame que celui de 2024. Donc en gros, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est déjà de décortiquer ce rapport 2025, voir un petit peu un résumé de chaque macro tendance, quelques exemples, et ensuite on va partir plus dans des axes qu'on a vus nous, qui pourraient être pertinents également, mais qui n'ont pas forcément été mis en exergue par ce rapport-là, et peut-être quelques autres insights qui pourraient nous revenir par-ci par-là. Donc c'est vraiment pas un épisode exhaustif, bien qu'on essaye qu'il le soit, mais voilà, beaucoup de choses à dire ensemble.
Absolument.
Alors, du coup, je vais commencer directement par partager l'écran. Donc, voilà le rapport Diageo. Vous pouvez y accéder tout simplement sur leur site internet et le télécharger. Leur méthodologie... Et ben, au final, elle est un petit peu comme mon studio, Studio Blackthorns, c'est une méthodologie mi-IA, mi-humain. On va dire qu'ils ont analysé plus de 160 millions de conversations. Alors, je ne sais pas ce qu'ils appellent conversation, mais en tout cas, voilà, ils ont étudié pas mal de choses. Et, ils ont...
C'est sur les réseaux sociaux, notamment.
Ouais, ok. Et du coup, ils ont inclus aussi tout ce qui est plateforme de social media, forum, digital media, etc., dans 180 marchés dans le monde entier. Donc, ce qui représente quand même un nombre de sources considérable. Et ils en ont fait un beau rapport. Donc, ils ont fait ça depuis 2023. Donc, 2023, 2024, 2025. Ça commence à faire.
Alors non, c'est le deuxième celui-là.
Là, c'est le deuxième, mais il me semble
Ouais.
qu'ils ont commencé en tout cas leur système d'IA
Ah de
à
oui,
partir de
de recueil
2023,
des
quoi.
données, OK.
Voilà, ouais, recueil des données. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut voir en premier lieu? Donc, on repart sur le néo-hédonisme qu'on a déjà défini l'année dernière. Alors, en résumé, les consommateurs recherchent des expériences uniques et mémorables plutôt que la simple indulgence. Ils sont prêts à investir dans des produits et des moments exceptionnels. Par exemple, on a la Feria Don Julio qui réimagine pardon, la fête traditionnelle mexicaine, offrant des expériences de dégustation immersives. L'intérêt croissant pour les espaces sociaux alternatifs montre une volonté de diversifier les modes de socialisation. Alors là, on avait un lien à côté. Voilà à peu près ce à quoi peuvent ressembler les Feria Don Julio. Donc voilà, avec la petite bouteille packshot en haut. Et donc voilà, on va dire comme exemple qui pourrait montrer le côté néo-hédonisme. Voilà. Ensuite, peut-être que tu aurais quelque chose à rajouter sur cet aspect-là.
Pas forcément là, je t'avoue, ça fait partie des angles de leur rapport où je suis un peu dubitatif.
Alors, il faut dire
Ça
qu'ils
me
sont
paraît un peu
dans.
creux
Ouais.
si je suis parce
Pour
que bon.
moi, c'est vraiment macro-trend et micro-trend. Ils ont fait un mix des deux. Et
Parce
j'ai.
qu'après, ils illustrent avec ce qui des activations qu'ils font avec des marques de leur portfolio.
Ouais, forcément, ouais.
Mais voilà, après 2 ans, moi j'avoue que bon, néo-hédonisme, bon, ok, soit.
Je pense qu'il essaye de prendre l'alcool dans le prisme de la vie en 2024,
Ouais.
2025 et potentiellement tous les aspects d'un consommateur d'alcool, enfin, tous les aspects de sa vie. Voilà quoi. Au final, comment intégrer l'alcool au plus profond de leur vie, quoi. Ensuite,
Avec
avec
modération, bien sûr.
modération, ouais, c'est sûr. Du coup, deuxième tendance, c'était le conscious well-being, donc le bien-être conscient, modération et équilibre. En résumé, la santé et le bien-être sont holistiques. La modération est clé avec des tendances comme le zebra stripping, donc le fait d'alterner des boissons alcoolisées et non alcoolisées, et des occasions décélérées, entre guillemets. Avec comme exemple la campagne Mix It Up de Gordon's, qui met en avant cette modération en encourageant l'alternance entre Gordon's Pink et Gordon's Pink 00. Donc là, pour le coup, forcément, ils font une activation où on va utiliser du alcool et sans alcool de la même marque. Voilà un petit peu ce que ça peut donner leur pub si vous nous regardez en vidéo. On voit un split screen, l'écran coupé en deux avec d'un côté des consommateurs d'alcool et de l'autre de sans alcool. C'est assez intéressant le zebra stripping. Peut-être que tu as des insights à nous fournir là-dessus.
Pas forcément, mais j'en parlais, tu vois, je faisais un autre podcast dans le Distillcast avec Rich Jumentier, où on a parlé de ce truc-là, où lui, il percevait ça comme juste, on a trouvé un nom, un truc, un non-événement, quoi. Moi, je trouve ça plus intéressant parce dans le sens où ça dénote une conscientisation de certaines pratiques. Donc, je trouve intéressant, enfin, en tout cas, moi, j'ai pas le sentiment que dans ma génération, on se soit jamais posé ce genre de questions. Donc, s'il y en a qui le font aujourd'hui, je trouve ça intéressant de le définir comme ça. Et effectivement, Diageo avec ses marques comme Gordon's, qui a des déclinaisons sans alcool, ou ils font aussi Captain Morgan en version sans alcool. Bah, c'est parfait pour eux, quoi, pour valoriser ça, quoi, parce qu'en gros, ils sont sur les deux tableaux. Voilà.
Carrément.
Et je trouve ça assez rigolo de te dire finalement, d'un point de vue marketing, s'ils sont capables de te choper sur les deux instants, et en fait tu fais du zebra stripping, mais en fait tu avec la même marque, en fait.
Ouais,
C'est
c'est ce que
génial.
j'allais dire. Peut-être que
Bravo.
c'est une nouvelle manière de faire pour les marques, et peut-être que même les petites marques qui nous écoutent pourraient potentiellement instaurer ce genre de choses. Parce que souvent, ce que j'entends moi dans les interviews que je fais, ou dans les prospects ou clients qui me parlent, c'est toujours quand ils viennent avec du sans alcool, c'est il faut une alternative à l'alcool et inversement. Et là, je trouve ça hyper astucieux. Alors, outre le fait que le naming de cet événement soit vraiment bizarre, zebra stripping, il faudrait qu'on m'explique d'où ça vient.
Bah les bandes d'un zèbre,
Ah oui, ok.
hein?
Oui, bah
Tout
oui.
simplement.
Tout simplement,
Donc t'alternes,
blanc et
t'as
noir, quoi.
du noir, du blanc, du noir, du
Ok,
blanc.
bah, tu vois, je l'avais pas conscientisé comme ça. Et de toute façon, j'ai vu ce terme il y a vraiment très peu de temps, donc j'ai pas eu le temps de me pencher dessus. Mais par contre, d'un point de vue consommateur, autant plein d'autres choses sur le rapport et dans les sites internet qu'on peut voir sur les trends de 2024, 2025 ou même 2048, n'ont pas beaucoup de. On va dire, ce sont pas vraiment très concrètes, où on peut passer d'une tendance à l'autre, d'une année à l'autre, et ne pas du tout la voir. Autant celle-ci, je trouve qu'elle s'inscrit vraiment dans un comportement normal d'une personne lambda consommatrice d'alcool. Au final, ça arrive à tout le monde de boire ne serait-ce que de l'eau et une bière. Et du coup, tu fais déjà du zebra stripping, ou le classique, bois une pinte d'eau entre un verre d'alcool quand on est en bar pour pas avoir des lendemains difficiles. Ça fait partie des mœurs et des choses qu'on nous a toujours répétées, mais qu'on n'a jamais forcément marketé. C'est comme ce que tu disais juste avant. Et là,
Oui,
ça
en
devient
même temps,
intéressant.
j'avais pas le sentiment qu'il y avait la même conscience, tu vois. Je pense que la grande majorité des gens qui vont dans des bars ou des pubs, ils boivent de l'alcool et de l'alcool et de l'alcool et de l'alcool. Et du coup, le fait qu'on mette un mot là-dessus, c'est un autre level de ah, ok, il y a une prise de conscience ou un truc comme ça. Tu vois, dans les bons bars à cocktails, on te sert un verre d'eau, on te sert un verre d'eau avec tes cocktails. Donc ça peut paraître naturel, mais je sais pas, quand tu fréquentes des pubs, je pense que. Ça t'a pas sauté aux yeux forcément le zebra stripping jusque-là.
Non, mais du coup,
Donc
on arrive dans ce
si
côté
ça se fait,
inclusif.
c'est super intéressant.
Ouais. Et puis, tu vois, le côté inclusif des marques ou du fait d'être bienveillant et inclusif en 2025, ça fait partie de ça. Enfin, c'est pour ça que les bars s'y sont mis. C'est pour ça qu'on a des options sans alcool. C'est pour que tout le monde y trouve son compte. Donc, au final, le zebra stripping, ça ne fait que renforcer cet aspect-là et l'essor du sans alcool dans le monde, quoi. Donc pour revenir au final à la suite du rapport, on a une trend numéro 3 qui est expanding reality, donc au final la réalité étendue, et on peut constater que l'IA commence à s'imposer un petit peu dans le secteur. On sait déjà que l'IA est omniprésente, et on en parle bien assez dans The Bottlefield Show, et elle transforme notre relation au monde, et notamment à travers des relations augmentées par IA. Et l'accent est mis sur l'intégration harmonieuse de la technologie dans la vie quotidienne. Et là, comme exemple, il parle de l'activation CGI. Donc CGI, c'est un terme qui veut dire 3D au final. De Tanqueray 00 à Madrid avec une bouteille géante virtuelle. Et ça va illustrer l'utilisation créative de la technologie pour engager les consommateurs. Alors là, on peut voir à l'écran au final une activation que moi, je n'avais pas, au final, pas vue avant
Moi
de
non
faire
plus,
ce
j'avoue.
podcast. Alors pour l'instant, on voit juste la communication sur Facebook, mais ça va faire un petit reroll. Donc là, on peut voir des gens qui sont en train de voir dans le ciel une bouteille de Tanqueray Zéro se vider. Enfin, il se passe des choses avec un hélicoptère qui amène un glaçon. Et au final, le Schweppes s'allume, ça fait un Schweppes tonic zéro. Donc voilà, Ginto Zéro, et avec une activation en réalité augmentée. Donc là, je pense que tout ce qu'on voit, c'est à travers le téléphone, du coup, vu que c'est la réalité augmentée. Et ils ont potentiellement réussi à créer une expérience où on peut voir à travers son téléphone une bouteille de Tanqueray, en gros un cocktail se faire sous ses yeux à grandeur nature, comme on pourrait voir un feu d'artifice, quoi. Donc c'est assez intéressant. Voilà, je ne sais pas si tu as envie de commenter cette action ou potentiellement l'IA de manière générale.
Bon, je pense que là, ça s'inscrit dans un truc beaucoup plus macro, macro quoi. Mmh. Et forcément, si les nouvelles technologies sont adoptées dans notre vie, forcément, ça se reflète aussi dans des campagnes marketing. Un truc qu'on voit beaucoup dernièrement, c'est genre des animations dans le ciel avec des drones, tu vois, qui sont guidés. Et qui font des motifs et tout, des trucs trop jolis, tu as des marques d'alcool qui ont utilisé par exemple cette techno pour faire des animations publicitaires pour leur marque. L'IA en fait partie. Là, on est plus sur le côté marketing, mais on en a pas mal parlé aussi dans le Bottlefield Show. Il y a aussi tout le côté, comment on adopte l'IA dans la création de nouveaux produits, comment on l'adopte dans des simplifications de process ou dans la production même, dans l'automatisation ou pour traiter beaucoup de data sur, je sais pas, sur une chaîne d'embouteillage ou pour aller détecter des défauts d'étiquetage, j'en sais rien. Tout ça, finalement, forcément, ça existe, donc c'est adopté aussi. Enfin, voilà, l'industrie des spies est pas dans une bulle où on n'adopte pas les nouvelles technos, quoi.
C'est clair. Et si vous voulez en savoir plus sur l'IA, go to The Bottlefield Show pour voir au final peut-être les 10 ou 15 derniers épisodes qu'on a fait. C'était à propos de ce genre de thématique.
Carrément.
Ensuite, trend numéro 4 qu'ils appellent collective belonging, donc l'appartenance collective, le pouvoir des fandoms. Alors, fandom, c'est un mot pareil que je viens de voir aujourd'hui. Au final, c'est un mot valise, donc c'est une base fan de gens qui partagent le même centre d'intérêt. Donc, au final, c'est une micro-communauté pour moi, une micro-niche, quoi, c'est ce que ça veut dire. Donc, en résumé, les consommateurs recherchent des communautés et des liens authentiques, notamment au sein de fandoms passionnés. Les marques doivent s'intégrer dans ces espaces de manière pertinente. Et par exemple, on a le partenariat de Smirnoff avec Troy Sivan, qui est un chanteur australien, pour la plateforme We Do We, qui cible les communautés LGBT et promeut la diversité et l'unité. Donc la croissance des conversations autour des fandoms passionnés a été de plus 120% dans le rapport. Et ça souligne l'importance de ces groupes. Donc, on en parle toujours et partout. Pour moi, c'est ni plus ni moins qu'une cible marketing au final. Et comment on va aller parler à sa cible et au centre d'intérêt qu'elle partage, quoi. Donc,
C'est de l'influence.
Voilà,
c'est de l'influence. C'est le même ressort que de faire appel à une égérie, à une star qui représente ta marque. Voilà, forcément, tu captes les fans de cette personne. Et tu les transvases ou tu les transfères vers ta marque, quoi.
Et comment aussi faire pour optimiser ça et pour rendre ta fanbase impliquée dans ton produit. Et c'est là tout le problème ou tous les objectifs des marketeurs en 2025, c'est parler de son produit et le mettre en exergue, c'est une chose. Mais faire en sorte que sa communauté en parle à ta place, c'en est encore une autre. Donc, potentiellement, qu'il faut arriver à trouver des actions ou des leviers marketing pour que cette cible-là, cette communauté, se sente réellement entendue par la marque et, en gros, que la marque puisse laisser libre cours à ses propres fans pour, je ne sais pas, créer des nouvelles recettes, participer à des jeux concours, participer activement à l'élaboration et au développement de cette marque.
C'est l'idée qui est plus vieille, tu vois, qui a au moins 15 ans, je dirais, c'est le mot valise consommateur aussi. Voilà, tu vois, tout l'essor, je sais pas, du community management ou quoi, ça vient aussi de là. C'est, ton consommateur devient aussi un acteur de ta marque, il participe. Donc voilà, à travers la communauté. Après, je pense... Ce genre de choses-là par rapport au SPI, ce qu'on voit, c'est quand même un prisme très anglo-saxon. Enfin, vu du prisme français, c'est beaucoup plus compliqué, voire impossible.
Ah, c'est sûr que si tu fais des eaux de vie en fin fond du terroir, déjà va trouver ta micro-niche, va essayer de l'inciter. Et puis il y a toujours aussi la loi E20 qui va au final pénaliser peut-être ce genre de marque et en tout cas
Bah,
tout le
tu
territoire
peux le faire
français.
au niveau local ou quoi, mais tu peux pas communiquer dessus, quoi.
Ouais,
Ouais,
c'est sûr.
clairement, c'est pas en France que tu vas recruter une star de la chanson et aller parler à ses fans, tu vois, tu pourras pas le faire.
C'est clair. D'où je pense aussi peut-être même l'essor du sans-alcool. Est-ce que tu penses pas, mine de rien, qu'il peut provenir de là? Se dire que tous les nouveaux acteurs qui n'ont pas forcément encore créé de marque, mais qui veulent et qui auraient potentiellement voulu créer des marques d'alcool, se disent, au final, aujourd'hui, c'est vraiment trop compliqué avec cette loi ou avec ce lobbying ou avec cette néo-prohibition dont on va parler plus tard. Lançons directement une boisson de sans alcool sans se prendre la tête et là, on pourra faire ce qu'on veut. Est-ce que tu penses pas que beaucoup d'acteurs aujourd'hui se disent ça et que c'est pour ça qu'on voit émerger plein de marques sans alcool?
Je sais pas, c'est un peu la question de l'œuf ou de la poule, mais y a tel que tu le décris, finalement, c'est juste une démarche opportuniste, quoi. Il y a un marché, il y a du biz à faire, on capte qu'il y aurait de l'argent à se faire et on lance ça. Je sais pas,
Opportuniste ou
y
se
a quand
faire
même beaucoup
plaisir
de
plus,
gens.
moi, je pense.
Ouais, mais il y a quand même beaucoup de gens qui aujourd'hui lancent des marques de spiritueux, qui veulent être embouteilleurs, qui font, je sais pas, des arrangés, qui veulent ouvrir une distillerie. Donc, enfin bref, il y a des passionnés dans les deux côtés. Après, il y a juste des businessmen, quoi, qui se disent, ah, tiens, je sais pas. Il y a moins de taxes, il y a moins de régulation, on va le faire, effectivement. C'est un côté très pragmatique et opportuniste.
Je vois ce que tu veux
Mais
dire. Ok. On continue
oui.
sur la tendance numéro 5, le Betterment Brands. Au final, en français, on peut qualifier ça de marque d'amélioration, l'importance du local. En résumé, les consommateurs recherchent des marques engagées pour un monde meilleur, notamment à travers la durabilité et le soutien aux communautés locales. On parle de richesse locale. Par exemple, Baileys se positionne comme une marque d'amélioration avec des initiatives comme le Baileys Sustainable Farming Academy et l'expérimentation de bouteilles en papier qu'on peut voir ici. Hop. Donc l'intérêt pour la richesse locale témoigne de l'importance du local. Donc au final, ça, je pense que pour le coup, on est beaucoup plus dedans en France. Autant le côté expand reality ou appartenance collective et fandom, on est plus du côté anglo-saxon. Autant le côté betterment, donc amélioration et bien-être et durabilité et sourcing de qualité. Là, pour le coup, j'ai l'impression directement de passer dans le terroir français. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais en termes de trend, ça reflète beaucoup plus ce qu'on peut voir au jour le jour sur le terrain, quoi.
Voilà, je pense que c'est le reflet d'une tendance globale, tu vois. Et le côté que finalement, si tu ne le fais pas, ça se voit. Enfin, tu vois, si tu n'as pas intégré toutes ces contraintes par toi-même dans tes process et tout, les gens le voient maintenant. Ils se posent la question. Je pense qu'il y a un côté un peu contraint aussi pour certains. Et après, il y a comment certaines marques activent le levier communication, RP sur ces sujets-là, plus ou moins, quoi. Mais dans tous les cas, oui, ça, il n'y a plus une distillerie qui s'ouvre sans qu'il y ait, on ait une réflexion sur
Une action sociétale,
comment on
quoi.
va économiser le côté RSE, comment on va. Enfin oui, RSE globalement, tu vois. D'une part, comment on va limiter nos déchets, comment on va recycler ce qu'on a, comment on va faire que nos salariés se sentent mieux. Et voilà. Et finalement, si tu coches pas cette case aujourd'hui, ça se voit.
Ça se voit, et puis pour moi, c'est la case prioritaire, enfin, en tant que que brand manager, marketeur, pour moi, c'est la base d'une plateforme de marque, de la raison d'être, quoi. Pourquoi tu fais ça au-delà de gagner de l'argent et d'être dans ce business-là? Faut qu'il y ait une idée clé, une idée phare qui te définisse, qui définisse ton ADN, tes actions au jour le jour, et tout ça chapeauté autour de valeurs que tu partages avec tes associés, tes employés, tes partenaires. Tout ça mis ensemble, ça donne une belle entreprise et un beau projet. Donc, on ne peut pas enlever ça de l'équation. Pour moi, c'est le point fondamental d'entrée ou de création même de la marque.
Ben, je pense qu'avant, c'était vu comme une contrainte, essentiellement une contrainte, et maintenant, c'est devenu une opportunité. Parce que, en fait, c'est quand bien même ça coûte plus cher, c'est plus compliqué, en fait, ça a un impact positif globalement sur ton image, sur je sais pas, ta marque employeur, et potentiellement, in fine, sur tes ventes aussi. Donc, ce qui pouvait être vécu juste comme une contrainte à un moment devient une opportunité finalement, ou quand bien même tu serais un sceptique ou t'adhères pas forcément à tout, bah tu le fais parce que en fait, in fine, ça te profite. Voilà. Un
Oui,
peu
bah,
cynique, mais.
un peu cynique, mais dans tous les cas, le but, c'est quand même de gagner sa vie avec sa passion. Donc,
Ouais, bien
il
sûr.
faut arriver à. Mais ça reflète aussi totalement le monde d'aujourd'hui, en 2025. Quand on va sur une plateforme de crowdfunding, n'importe laquelle, on voit bien que la nouvelle génération qui arrive et qui lance des marques se base directement sur le côté durable, le côté un peu sauver la planète et faire les choses de manière éco-consciente. Et voilà, quoi, c'est dans la tête de tout le monde. Donc,
Bah
ça
c'est
devient la norme. Et tant mieux.
oui, c'est en gros de base tu réponds aux éventuels très certainement aux questions que tu auras si tu n'y réponds pas de suite. Voilà. Si de facto dans ton crowdfunding tu dis pas ah et voilà comment on a pensé le projet pour que ça soit plus éco-friendly ceci cela, si tu le fais pas, les gens vont te le demander. Donc tu autant résoudre le problème à la racine, quoi.
C'est clair. Donc voilà en gros comment on peut résumer de manière assez grossière le rapport de Diageo, et en même temps j'ai l'impression que ça sert pas énormément de s'éterniser dessus. En tout cas, je pense qu'on vous aura sauvé peut-être 2 heures de lecture pour arriver à une conclusion pas forcément plus folle que ce qu'on vient de vous faire depuis le début de l'épisode.
Je pense à un rapport qui est plus sociétal, qui dit un peu voilà des tendances un peu globales, et voilà comment nous, en tant que groupe spiritueux, on coche certaines cases de ce truc. Mais je pense qu'il y a une distinction à faire avec est-ce que c'est vraiment, c'est pas les tendances spiritueuses quoi, qui en ressortent vraiment. Enfin, mis à part peut-être le volet zebra stripping qu'on a vu avant.
Ouais, pour moi, c'est le
Toi,
truc le
bon, le
plus
côté.
actionnable, en tout cas, niveau marque et acteur de la boisson qui nous écoute aujourd'hui. Voilà, comment penser le futur et comment créer des nouvelles choses et comment surfer sur les tendances. Après, avant de passer sur nos axes à nous, j'aurais peut-être aimé faire juste être un sniper de petites punchlines que j'ai pu voir par-ci par-là. Alors, ça sera pas des blagues, hein, ça sera quand même des punchlines d'insight, tendance, et peut-être tu réagis en fonction. Donc, on se fait ça peut-être pendant 5 minutes, et puis après, on passe sur vraiment nos axes à nous.
Ça marche.
Donc, d'une manière générale, tout au long de l'année 2024, et pour avoir lu aussi tes multiples newsletters, on a un marché mondial du whisky qui est évalué à 72 milliards de dollars. Le gin projette de croître de 5,4% entre 2025 et 2030. Donc, il y a toujours une hausse du gin. Le marché du rhum, il va atteindre. Il est attendu qu'il atteigne dans les 19 milliards en 2029. Il y a aussi une croissance continue de la tequila premium. Des inquiétudes concernant une potentielle crise du whisky lock due à la baisse des exportations et de la surproduction. Est-ce que tu as peut-être un insight déjà sur ces éléments-là?
Alors, tu parlais de sniper, tu vois, moi ça me fait réagir un truc. Juste là, ces derniers jours, je voyais pas mal de gens sur LinkedIn dans l'univers sans alcool qui étaient tout contents de voir des chiffres. Je crois que le marché du sans alcool était de 2 milliards. Et voilà, et quand tu mets ça en perspective en disant ah tiens, le marché du whisky c'est 72 milliards, le marché, tu, je sais pas, t'as dit le marché du rhum ou du gin c'est. Je ne sais pas combien de dizaines de milliards aussi. Ça fait relativiser aussi le poids du sans-alcool.
Ouais. Et quand on parle de sans alcool
Bref,
à ce
voilà.
niveau-là, on parle du sans alcool dans le milieu d'alcool. On ne parle pas des eaux minérales et pétillantes, quoi.
Oui, on parle des alternatives. Voilà. Et en plus, si on parle de mon domaine plus spécifiquement, il faut savoir que dans les potentiels 2 milliards, c'est. En grande partie, c'est la bière sans alcool qui drive le tout. Donc, c'est-à-dire que tu parlais des gens qui se lancent finalement dans le sans alcool, ça reste assez anecdotique, je pense encore, même si c'est indéniable et qu'il y a des tendances de plus de fond et dont on va parler après.
Carrément. Et sur le
Mais voilà,
Whisky
bon, je
Lock?
t'avoue, j'ai pas forcément d'insight là-dessus.
Ok.
Je pense que c'est des vagues.
Mais en parlant de
Voilà,
vagues,
c'est.
il parle du boom du bourbon américain qui commence potentiellement à s'essouffler. Bon, je t'avoue, n'étant pas en Amérique et ne buvant pas forcément de bourbon, je suis passé un petit peu outre ça. Il y a une rumeur sur un
Bah.
possible ralentissement du marché de la tequila aussi vers la fin d'année, donc c'est-à-dire maintenant, parce qu'il y a eu un énorme boom. Donc forcément, c'est comme tu dis, c'est comme la bourse, ça va, ça vient.
Oui, bah, en gros, les trucs, c'est qu'il y a eu beaucoup d'investissements. Typiquement dans le whisky, moi, je sais que dans mes quotidiennes, je relayais toutes les semaines des trucs sur des projets à X millions de dollars de distillerie, des expansions. Là, tu as Buffalo Trace qui a bouclé une extension à 1,2 milliard, tu vois, pour multiplier par 150% ses capacités de production. Là, ils ont lancé ça en 2015, je crois. Ils ont bouclé là en début d'année. Donc il y a plein d'investissements et forcément à un moment il y a un petit embouteillage je pense mais ça se consolide et puis ça se normalise et puis voilà tant que enfin voilà après il y a beaucoup de création de marques donc forcément après avoir enfin je pense oui enfin je lisais un truc de Dave Broom il y a quelques mois mais qui parlait de Whisky Lock je sais pas il y a 30 ans tu vois aussi il y a 40 ans on en parlait tu vois et depuis le secteur a aussi explosé
Et pour toi, est-ce que
donc
tu
il y a
relayes dans tes newsletters là, qu'est-ce que tu verrais comme le produit phare ou le produit dont tout le monde parle aujourd'hui, enfin en termes de catégorie, est-ce que tu en vois plus certains que d'autres?
bah, peut-être moins que les années d'avant. J'ai l'impression que tout le monde un peu. Moi, j'avoue que j'ai un peu du mal à m'y retrouver parce que j'ai l'impression que tout le monde prêche pour sa paroisse. D'un côté, on dit que le gin, ça marche bien, malgré d'autres messages qui disent que ça marche moins bien. Les gens qui sont dans le rhum te disent que le rhum, c'est un truc de dingue. Le whisky, on te dit que ça ralentit, mais en même temps, le whisky, c'est quand même énorme.
C'est plutôt
T'as
alcool
le.
versus sans alcool, plutôt que les catégories d'alcool entre elles, quoi, dans l'idée
Peut-être,
générale.
oui. Et encore, tout est relatif, tu vois, quand c'est pas les mêmes tailles de marché aussi, donc forcément. Mais et puis aussi un distinguo à faire entre ce qu'on peut voir sur les marchés anglo-saxons, américains notamment, et ce qu'on voit en Europe, parce que typiquement, la tequila, mettons, c'est un truc de dingue aux États-Unis, et maintenant ça a ralenti parce que. Ça a été inondé, quoi. Et là, j'avais un truc, je t'ai envoyé un lien, c'était sur le fait qu'il y a quasiment aujourd'hui autant de stocks de tequila qu'il n'y a que la production annuelle de tequila. Donc, il va falloir les couler, les prix de l'agave baissent, tu vois. Alors qu'il y a un an, on parlait, ah tiens, il va y avoir une pénurie d'agave. Donc, il y a un goulot d'étranglement peut-être à ce niveau-là sur le marché nord-américain. Mais en même temps, bah, ça part vers l'Europe maintenant. Tu vois, Terremana, la tequila
Dwayne Johnson.
De The Rock, elle va arriver en France cette année, tu vois, elle sera même distribuée en grande distribution. Donc, peut-être ça bloque là-bas et puis ça va peut-être décoller ici.
Ouais, c'est intéressant.
Donc moi, au fil des ans, j'ai tendance à tout prendre de manière très relative. Ça va, ça vient, quoi. Et puis en fait, selon les sources que tu prends, tu sais plus qui croire, quoi.
Ouais, c'est intéressant. Pour
Donc
poursuivre ce
j'aurais
côté.
pas de catégorie. En tout cas, c'est pas les hard sellers, voilà.
Ça, c'est sûr. Pour poursuivre dans l'axe sniper, je te propose des tendances générales comme ça en 2025. Tu me dis si tu es d'accord ou pas d'accord. Renforcement de la premiumisation dans toutes les catégories de spiritueux.
Probablement d'accord, oui. Je t'ai envoyé un lien là que j'avais vu là, fin d'année. C'était typiquement le fait que Diageo lance carrément une, comment on appelle ça? Enfin, bref, une sous-section dans le groupe dédiée aux marques de luxe.
Ok.
Donc ça va même au-delà de la premiumisation, c'est le luxe. Tu vois, les marques de cognac qui développent vachement l'image luxe aussi, tu as l'impression qu'ils vendent même plus de. Ils vendent même plus du cognac, ils vendent des beaux flacons, des bijoux, des trucs à collectionner. Voilà, tu as le marché des enchères. Le marché des enchères aussi, tu vois, ça a un peu ralenti derrière moi, mais en même temps, il y a beaucoup de spéculation. Il y en a peut-être eu un peu trop, mais donc peut-être ça, tout ça un peu converge entre on boit moins, mais on boit mieux, ou alors on ne boit plus, mais on collectionne les bouteilles, j'en sais rien, tu vois. Bon, en tout cas, on va dire que ça polarise. Voilà, c'est peut-être ça le truc.
Après, il y a aussi un gap entre premiumisation et produits super premium. Enfin, je ne sais pas à combien de niveaux de super on s'arrête, à part super potion. Combien de niveaux on s'arrête. Il y a quoi? Il y a premium, super premium, méga
Bah,
rare
t'as
premium.
ultra, ultra premium.
Donc, je sais pas à partir de quand on arrive sur des produits à 10 000 balles la
Bah là, en
bouteille, voire
gros, c'est,
plus,
on
mais.
va dire. C'est probablement au-delà de 100 $, la bouteille, c'est considéré comme déjà du luxe, quoi.
Ok.
Enfin bon. Mais après, ça, il n'y a pas de limite, quoi.
Et pour le coup, avec l'arrivée de l'IA à toutes les sauces, on entend beaucoup moins parler des initiatives Web3, des NFT de fuite Bourbon. Enfin, tout ça, c'est un petit peu tassé selon toi ou c'est quand même d'actu encore?
Ah, je pense, oui, ça, c'est. Enfin, il y a toujours des initiatives, mais elles ont plus du tout l'écho qu'elles avaient avant. Ça intéresse, je pense, moins les gens. Je pense qu'il y a les gens aussi, il y a un problème de confiance potentiellement, vu que tu vois des trucs qui, d'un coup, c'est l'euphorie, et puis le lendemain, ça vaut plus rien. Tu as peut-être une problématique aussi sur des boîtes d'investissement dans des fûts de whisky qui sont probablement pour la plupart des scams, quoi. Qui sont incapables, qui te font des promesses, mais qui sont pas tenables dans tous les cas. Donc voilà, non, et puis le Web3, oui. Je sais pas, je pense qu'on est passé au-delà, quoi, tu vois.
Ouais,
C'est
non, c'est sûr. Bah depuis l'IA, de toute façon, ça a tout bouleversé.
oui, voilà. Enfin, il y a des convergences, tu vois. Bon, j'ai pas mis toutes mes idées en ordre là-dessus, mais tout ce que fait Meta, tu vois, ça partait du multivers, du métavers et tout. Et puis en fait, mais l'IA remet tout ça un peu, remet un peu ça au goût du jour, mais d'une autre manière, vu que pour développer de l'IA, maintenant on en est à développer des mondes virtuels pour pouvoir créer de la data pour nourrir l'IA, tu vois. Donc voilà,
Ouais.
ça s'est
Ok.
repackagé, on va dire.
Bon, en tout cas, on revient un petit peu au spiritueux. La
Ouais.
durabilité et les emballages éco-responsables gagnent en importance. Est-ce que toi, tu as pu publier ou relayer ce genre d'informations sur des bouteilles en papier, des
Bah,
initiatives éco?
il y a bouteille en papier, mais finalement, tout ça, tout ce que j'ai pu voir passer, c'était à chaque fois des pilotes, des tests, où tu as des RP sur le fait, on fait un test, et il y a rarement un suivi. Tu vois, les bouteilles papier de, je sais pas, de Johnny Walker, de Absolute Vodka, que j'ai pu relayer il y a maintenant 2, voire même 3 ans.
Même 2020, ouais, j'ai l'impression que c'est
Voilà
vieux.
où ça en est aujourd'hui. Entre-temps, tu as eu des essais aussi sur les bouteilles en aluminium. Tu parlais de Béliès tout à l'heure, ils ont fait ça. Mais ils font des tests et puis c'est avec 1 000 bouteilles potentiellement. Et puis, mais du coup, je vois passer les trucs. Mais je réalise que je vois jamais après le OK, qu'est-ce qu'on en a fait?
Il n'y a pas de
En
bouteille en
France,
papier
t'as.
dans les rayons, quoi, au final.
Alors, y a quand même, si, il y a une marque qui est d'ailleurs et en grande surface, une marque de jean qui fait ça là, avec les bouteilles Frugal Pack.
D'accord.
Tu as peut-être même un jean chez Lidl qui est potentiellement dispo avec une bouteille. Alors, c'est papier, mais tu sais, il y a une sous-couche en dessous. Quand même pour l'étanchéité. mais c'est Frugal Pack, le fabricant de ces bouteilles.
On peut voir à l'écran là si vous nous
Ça,
suivez.
ah, voilà. Bah ça, il y a. T'en vois quelques-unes, mais ça fait moins les. Ça fait moins de RP en tout cas. Peut-être que soit c'est juste normal, soit les gens, peut-être, ils sont un peu. Je sais pas, ils adhèrent pas, je sais pas. En France, t'as Ade Fussini qui teste des bouteilles en PET avec de la fibre, des fibres recyclées je crois, j'ai plus en tête les matériaux, mais t'as des initiatives maintenant. Le problème, c'est que tu vois, d'un côté, t'as ça, et de l'autre côté, on parlait de premiumisation à un côté. Enfin, tu vois, c'est un peu
Ouais,
comment
avec des
tu fais.
souffleurs de verre qui font les... On est loin, on est
Voilà.
dans deux mondes différents. Et là, clairement, quand
Comment
tu
tu
vois ton
fais
produit,
cohabiter ça, quoi?
là, si tu vois la Frugal Bottle, là, quand tu la presses pour au final la disloquer et à l'intérieur, tu vois vraiment le bib, quoi. C'est un bag in box, en fait. C'est comme si c'était pour le coup, un alcool ou un vin dans un
Après, je pense
bag in box, ouais. Du coup, c'est pas
le
du tout sexy. La fin de vie de la bouteille,
non.
c'est pas un truc de collection. Et du coup, ça, là, je viens de me rendre compte, ça dévalue grave
Puis surtout, elles sont
le
toutes
produit, quoi.
pareilles, quoi. Peu importe la marque, c'est la même bouteille.
Même bouteille, mais là, le design, il peut être beau. Bon, il y a tout un travail de design, de branding autour de ces bouteilles. Mais c'est sûr, en termes de différenciation, bon, ça se veut
C'est
éco-responsable,
un.
mais c'est complexe quand même. Pour la perception du consommateur, te dire qu'une bouteille qui va coûter, j'espère, pas plus de 30 ou
Bah,
quoi, enfin, va
c'est
finir
pour
comme
ça que je
ça,
suis
c'est...
étonné qu'il n'y ait pas de plus de communication. Parce qu'en fait, si on t'explique le pourquoi du comment et que le fait que la bouteille, elle pèse, je sais pas, je crois que ça pèse 85 grammes ou quelque chose comme ça, versus potentiellement 400, 500 grammes sur une bouteille en verre, en fait, de manière très rationnelle, ça a plein d'intérêt, quoi. Si tu. Mais du coup, c'est étonnant qu'il n'y ait pas plus de com pour les marques qui adoptent ça et qui feraient vraiment. Enfin, je sais pas. Moi, si j'adoptais ça, je crois que je ferais du. Je bombarderais de messages pour dire, regardez, enfin, c'est peut-être un peu pas très joli, mais c'est. Enfin, ça va au-delà,
Bah,
quoi.
il faut
Ça
que
a du sens.
l'innovation touche les partenaires ou les gens qui l'achètent directement. Enfin, il faut qu'il y ait vraiment un switch et une prise de conscience et pas que ce soit juste une innovation parmi tant d'autres. Il faut que ça. C'est comme quand l'iPad est sorti il y a 15 ans et que personne n'en a voulu, quoi. Enfin, c'était juste pas le bon timing, pas le bon moment. Donc bon.
Mais par contre, il y a un truc qui, je pense, se développe beaucoup plus. Là, c'est beaucoup plus visible. Alors, peut-être pas des consommateurs, mais c'est au côté bar. Des bars qui achètent des bibs, justement, et qui re-remplissent des bouteilles. Comme ça, ils ont les belles bouteilles qui font face aux clients. Mais en coulisses, ils re-remplissent avec des bibs, quoi, plutôt que de recommander des bouteilles et jeter du verre à chaque fois.
Ça, c'est une très bonne
Ou
idée
avec
pour le
des
coup.
poches, tu vois. Ça, le client ne le voit pas forcément, mais ça a un sens de fou pour les bars qui économisent voilà, t'as EcoSpirit, c'est pareil, un autre système qui lui communique pas mal pour le coup, qui fait beaucoup de partenariats avec tous les gros groupes, qui développe son truc, qui l'étend aux États-Unis maintenant,
Bah, tu avais
un
Absolute
système
Vodka
de
aussi, qui avait lancé une bouteille composée à 60% de verre recyclé et qui continue. Mais il y a quelques
Et
bouteilles en
puis,
papier quand
bah
même
ça y est.
chez Avalon Calvados, Grinalds Gin,
Mais après,
Oldbeach.
en fait, c'est peut-être un peu plus anecdotique ça, parce qu'en fait, ce qui se passe beaucoup plus, par contre, c'est que beaucoup de marques refont leur même bouteille en verre, mais plus fine, plus légère. Voilà. T'as Plantéret qui a fait ça, t'as Brockman's Gin qui a fait ça, t'as bah, Absolut Vodka, je crois aussi. T'as quoi? T'as Monkey 47 avec leur Slow Gin, pareil, ils ont communiqué sur une bouteille plus légère. Enfin, tu vois, d'un point, toi, visuellement, c'est la même bouteille en verre, mais en fait, ils ont retravaillé le truc pour qu'elle soit plus légère et que dans le transport, ça soit plus économique aussi.
Ouais, l'impact aussi environnemental. Et puis, tu as les étiquettes biodégradables aussi qui peuvent rentrer dans ce côté éco-responsable.
Oui.
Ça, c'est intéressant.
Ça, je vois moins de com' dessus, mais après, c'est intéressant, c'est que si on communique pas trop dessus, c'est que finalement, en fait, ça va de soi, tu vois. C'est même plus un argument, c'est juste on le fait parce que c'est bien. C'est positif.
Ouais.
Et en termes d'étiquettes, je pense à Valen qui fait, mais depuis le début, des étiquettes en pulpe avec la pulpe des pommes qui sont utilisées pour son calvados, quoi.
Ouais, c'est intéressant. En tout cas, ne
Enfin, il
dites
y a
plus
des
dans
trucs
votre
comme ça.
marketing que vous faites un produit de qualité. Parce que
Ah.
forcément, voilà, ça va dans le sens de ce que tu disais.
Bah, j'espère.
J'espère, de base, quoi. Du coup, je continue rapidement le sniper et puis après, on passe à la suite. Le mouvement Sober Curious et l'accent sur la santé et le bien-être s'intensifient. Bon, bah, ça, voilà, pas de doute. En plus, en plein dry January. Les distilleries
Oui, bah
artisanales.
ça, je sais pas. Oui, on déroule après ça, oui.
Ouais, sauf si t'as vraiment un truc, envie de dire un truc là-dessus. Peut-être tu peux pas
Non,
t'en
non,
empêcher
mais
sur les.
c'est après, là. Non, non. Mais...
Ok.
Oui, ça, je pense, oui. Il n'y a rien à dire, il y a quelque chose.
Les distilleries artisanales continuent d'innover avec des saveurs et des méthodes de production uniques.
Ouais, je sais pas, c'est un
Voilà,
peu creux
c'est creux.
comme phrase.
Les événements immersifs et expérientiels autour de la consommation gagnent du terrain. Donc toujours des idées de RP ou marketing ou de lancement.
Voilà, mais moins possible en France pour le coup.
Voilà, toujours.
Voilà.
Les consommateurs exigent plus de transparence et de valeur des marques. Ça, toujours pareil. Les
Bon.
consommateurs, est-ce qu'ils exigent vraiment énormément de choses ou est-ce qu'ils ont la flemme quand ils achètent un truc en rayon et ils repartent vite en espérant qu'il n'y ait pas de monde à la caisse? Enfin, il y a toujours
Je
ce que les gens attendent.
pense que les consos l'exigent pas proactivement, mais potentiellement, peut-être que quand ils ont le choix à deux offres équivalentes, enfin, tu vois, je me dis, je suis dans le rayon, là, j'ai deux jeans au même prix et il y en a un, il y a la bouteille en papier, tu vois, peut-être je dis, ah bah tiens, je vais prendre celui-là. Tu vois?
Selon
Mais
tes valeurs et ton moment de consommation et
j'ai pas exigé qu'il fasse une bouteille en papier, tu vois.
ah bah c'est ça, c'est
Voilà.
tout le bullshit qui peut
Ouh.
tourner autour de ce genre de
Mais
données.
la transparence, oui, toujours dans tous les cas,
Mais oui, c'est sûr.
ça n'est que positif.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'essor des produits sessionables pour une consommation modérée et prolongée. C'est marrant ce côté sessionable, ça me fait penser aux sessions, tu sais, ces bières qui sont light en alcool,
Ouais,
qui
mais
ont
c'est
été
ça,
appelées
je
comme
crois, le
ça pour.
terme, ouais.
Ouais, ça a été appelé comme ça en gros pour faire plusieurs sessions en bar, quoi. Une session, c'est une tournée. Et en gros, l'idée d'une bière session, c'est qu'elle soit light et qu'on puisse enchaîner plusieurs tournées avant d'être un peu trop alcoolisé. Donc, c'est de
Voilà,
là que vient ce terme.
c'est l'alternative au vodka Red Bull.
Ouais, c'est ça. Donc l'essor des produits au final un petit peu low ABV, hein, c'est ça que ça veut dire concrètement. Parce qu'on parle toujours du sans alcool, est-ce que pour le coup tu as vu beaucoup de choses passer sur le low alcool, sur le fait que ça soit faible en faible teneur d'alcool?
Un peu moins que les années d'avant. Mais c'est là, je pense. Et puis après, on mixe souvent no et low. Alors, des fois à tort, parce que en réalité, quand on dit low et no low, c'est juste qu'il y a des produits sans alcool, ou presque sans alcool, qui sont là-dedans, parce qu'ils font en fait 0,5% d'alcool et tout. Et du coup, c'est catalogué en low, tu vois. Donc, c'est un terme un peu ambigu, en fait. Mais moi, tu vois, il y a quelques années, il y avait genre, je sais pas, des marques de vodka qui sortaient des versions à 20%, genre de choses. Je le vois plus pour le coup.
Ouais, pareil, je vois moins. Ou moins. Ou alors, en tout cas, pas
Donc,
dans notre marché français.
voilà.
Mais ouais.
Mais c'est peut-être ça dans le sens de ce que je te disais avant, une espèce de polarisation où d'un côté on fait des trucs sans, ou alors on te fait des trucs au contraire high ABV, tu vois.
Carrément. Ou alors, c'est peut-être une manière pour les marques sans alcool pour arriver progressivement à l'alcool. Bon, là, typiquement. Ouais, ça, je penserais aux hard seltzers ou aux marques comme YOLO, par exemple, qui font des pétillants faiblement alcoolisés à 4,5, quoi. Et on n'est pas dans la bière, on n'est pas dans le spiritueux, on n'est pas dans le cocktail, on est un peu un mix entre tout ça. Et potentiellement, elles vont faire une option soit sans alcool, soit encore plus alcoolisée, ou comme l'ont fait Féfé aussi, au final.
Ouais,
Donc.
mais je pense que c'est un peu du. Il y a plein de marques qui testent des choses en fait. Elles testent et voilà. Et probablement qu'en fait, quand tu fais une, je sais pas, une vodka avec des guillemets, si ce n'en est pas, mais à 20%, tu réalises que ça intéresse pas les gens, tu vois. Soit ils font un truc beaucoup moins, soit ils prennent la vraie vodka et puis basta, quoi. Voilà,
Intéressant. Bah,
bon.
peut-être que l'avenir nous le montrera, que tous ces tests pendant ces années entre 2020 et 2030 n'ont servi à rien et qu'on revient à l'ancienne. Bon, allez, je continue. La croissance démographique mondiale augmente la demande en spiritueux. C'est intéressant, ça.
Bon, j'ai envie de dire, c'est peut-être juste mécanique et mathématique, quoi.
Ouais, mais se dire pour les marques qui nous écoutent de penser à 2030 ou au fait que la Gen Z est déjà majeure, mais que la Gen Alpha, ils sont peut-être plus nombreux, ils seront majeurs d'ici 5 ans. Donc du coup, comment arriver à attirer cette cible-là avec quel produit, avec quel taux d'alcool, avec ou sans alcool. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est une donnée intéressante. Après, on va pas disserter 1000 ans dessus, mais
Bah, après aussi, ces générations, quand elles grandissent, est-ce qu'elles grandissent avec l'idée que l'alcool c'est cool ou est-ce qu'elles grandissent avec l'idée que c'est mauvais pour la santé? Donc, s'ils sont plus nombreux mais qu'ils grandissent dans un monde où on leur dit que c'est mal et tout, bah, en fait, ça fera pas avancer ton business, quoi.
c'est clair. Mais bon, en tout cas, je trouve ça. Ouais, le prisme est intéressant parce que si tu penses à ça et si tu vois toutes les études qui prouvent que les jeunes s'intéressent plus à l'alcool ou beaucoup moins, bah alors est-ce que les marques d'aujourd'hui, en réfléchissant à leur avenir, ne penseraient pas directement à propulser, à être leader du côté de sans alcool, quoi. Mais bon, il y a toujours des gens qui seront fans de faire des spiritueux et tant mieux pour nous. parce qu'on adore ça. J'arrête le côté sniper et là on va
Ouais.
passer plus sur d'autres axes qu'on a pu voir ensemble. Un premier étant la néo-prohibition, qu'on pourrait qualifier comme ça, de néo-prohibition, et au final de l'image de l'alcool dans la société, de la baisse de conso et tout. Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu là-dessus?
Bah ça, c'est vraiment un truc qui est assez récurrent, je pense, sur 2024 et qui est peut-être dont je pense potentiellement peut s'intensifier en 2025, c'est tout l'aspect de comment l'image qu'a l'alcool et les spiritueux globalement dans la société. À savoir que l'OMS a mis à jour ses recommandations en communiquant sur le fait qu'il n'y a absolument aucune quantité d'alcool qui est bonne pour la santé, contrairement à des messages qu'on pouvait avoir avant. Je sais pas, il y a 2 ans maintenant, tu avais le Canada qui avait peut-être des recommandations gouvernementales du type deux verres, je sais pas, enfin 2 verres par jour, quelque chose comme ça. Et ils sont passés à ce discours de l'OMS à c'est zéro aujourd'hui. Là, plus récemment, en novembre, tu as la Finlande qui est pareil, qui était, je crois, à 2 verres par jour pour les hommes et 1 verre par jour pour les femmes, tu vois, dans leur recommandation entre guillemets gouvernementale, qui est passée à zéro aussi. T'as plein, enfin voilà, t'as... Et puis de l'autre côté, des gens qui rebondissent là-dessus et qui voudraient carrément interdire l'alcool, ou alors aux États-Unis là, tout récemment, t'as le, alors, merde, j'ai oublié le terme, mais en gros le médecin chef des États-Unis qui a fait un rapport dans lequel il recommanderait de mettre maintenant des avertissements sur le cancer, sur les étiquetages d'alcool, tu
Ah ok, ouais, on y est.
vois. Donc on est là-dessus. T'as l'Irlande qui pousse, qui va adopter aussi des étiquetages beaucoup plus vénères à ce niveau-là. Quand bien même au niveau européen, ils ne pourraient pas le faire, bah, ils vont le faire quand même, visiblement. Donc t'as plein de choses un peu comme ça qui convergent. T'as, de l'autre côté, t'as une poussée de toutes les marques d'alternatives qui forcément vendent leurs trucs. Font écho à tout ça. Qu'est-ce que j'ai? J'ai dû t'envoyer plein de trucs là-dessus. Mais aussi une perception, bah tiens, le graphique que tu montrais juste avant, c'est l'idée aussi de comment, dans le temps, a évolué le fait que les gens maintenant. Alors, attends, c'est le bon graphique, ça? Bon, je vois pas bien, désolé. Mais c'est celui sur le Dry January, celui-là.
Ouais. Est-ce que c'est
Ok.
Ouais, c'est ça. American
Oui,
increasingly
voilà,
thinks
c'était celui-là.
drinking in moderate. Ouais.
Voilà, comme en l'image où tu vois que maintenant, plus de gens considèrent vraiment que l'alcool est mauvais pour la santé, là où c'était un peu moins le cas, mais on voit que ça a décollé vraiment ces dernières années. Donc voilà, il y a vraiment une image, tu vois, les jeunes qui font du zebra stripping, ont une autre image de l'alcool. Et voilà, donc il y a tout plein de choses qui convergent un peu dans ce sens-là. Si je reprends un peu mes notes. Tiens.
Tu parlais de baisse de consommation aussi, du coup. Parce que d'un côté, tu as peut-être
Oui.
des lobbying qui promeut ça et le côté du sans-alcool qui est en plein
Ouais.
essor. De l'autre, peut-être du coup, en comparaison, enfin, c'est une circonstance qui fait sens, que la baisse de
Oui, là,
conso
j'ai.
générale.
Ouais, du coup, le graphique qu'il y avait avant, c'était de se dire aussi que visiblement, il y aurait un plus grand intérêt pour le Dry January cette année qu'auparavant, avec plus de gens qui se déclarent en tout cas vouloir y participer. Tu as un truc, alors celui-là, il m'a vraiment fait tic, c'est sur le. Tu as une drogue, enfin une drogue aux États-Unis, un médicament contre le diabète, il me semble, qui s'appelle l'Ozempic. Et en fait, dont on a découvert qu'un de ses effets secondaires, c'était aussi de, bah, comme il te donnait moins d'appétit, bah, ça pouvait lutter contre l'obésité potentiellement. Et il me semble que d'ailleurs, ça commence à. Alors, il n'y a pas vraiment de test, mais que c'est potentiellement prescrit aussi pour ça. Mais au-delà d'être un peu un coupe-faim, ce médicament pourrait aussi réduire tes envies d'alcool.
Est-ce que c'est celui-là, là? Le Ozempic
C'est
Fuels
Ozempic, ouais,
Ouais, ok.
exactement. Et du coup, ce truc, aux US, ça fait un boom de dingue, parce que c'est genre le médicament potentiellement miracle, si toutes les études peut-être s'avèrent justes, pour guérir finalement l'obésité aux États-Unis et dans le monde. Et au-delà, ça pourrait même être potentiellement un jour prescrit pour lutter contre l'alcoolisme.
Okay.
Ou réduire tes envies d'alcool. Et si bien qu'il y a l'article là que tu montres montre un rapport en fait d'un gros investisseur de hedge fund britannique qui a visiblement vendu toutes ses actions Diageo cette année, justement parce qu'il anticipe le fait que ce médicament pourrait vraiment avoir un impact business sur tout le secteur des spiritueux. Enfin voilà, qui fait que tout va décliner, quoi.
Ok.
Donc voilà, enfin ouais, je t'ai bombardé de liens un
Ouais, il y a pas
peu
mal de liens, il
qui
faut
vont
arriver à
tous
la.
dans. Donc ça, c'est sur le fait d'ajouter une notion sur les cancers, sur les étiquettes, et ça vient d'en haut, quoi. Tu vois, c'est le. Comment on appelle ça?
Médecin chef
Le chief, voilà, médecin-chef.
des États-Unis. Ouais. Ouais, et puis
Donc
tu
tu
l'as
vois, enfin
relayé,
voilà.
on en a parlé déjà un petit peu, ouais, des différentes lois qui pouvaient menacer les spiritueux. Et des fois, tu me dis même en off, tu penses que d'ici 2050, ça ressemblera à des paquets de cigarettes, les packagings
Alors,
d'alcool, quoi.
j'en sais rien, toi, j'ai dit. Enfin, je sais pas, moi, je crois rien là pour le coup, mais. Mais je pense que quand tu mets tout ça bout à bout et que tu vois tout ça, enfin, Et puis globalement, la baisse de la conso, effectivement, tu vois, t'as souvent, tu vois passer des trucs qui disent, qui te montrent combien le vin, notamment, la consommation de vin a baissé en France depuis les années 60. C'est un truc de dingue. Tout ça mis bout à bout, tu te dis, oulala, enfin, je sais pas, je pense qu'il y en a qui veulent créer une marque de spiritueux aujourd'hui et qui nous regardent. Ça peut quand même te foutre un
Ouais, ça
sacré
fout les
frein, quoi.
boules, ouais, c'est clair.
Ou tu vois là sur ce truc Reuters là, c'est des chiffres qui montrent qu'en fait dans les années à venir, la croissance du monde des spiritueux va finalement être à peu près équivalente à celui du tabac, par exemple.
Ouais,
Donc
donc ça
qu'il y a eu
baisse, mais
un.
est-ce que ça veut dire que c'est pas déjà énorme en soi? Parce que je pense que l'industrie du tabac, ils se font quand même toujours des couilles en or, quoi. Faut le
Euh,
dire.
oui, oui, mais après, alors j'espère vraiment qu'on n'arrivera jamais à tout ce qui se fait avec le tabac sur les spiritueux, quoi.
C'est sûr.
Mais voilà, tu vois, c'est quand tu vois tout ça, t'as des bonnes raisons d'être parfois assez pessimiste, quoi, sur l'industrie.
Et du coup, ce terme de néo-prohibition, je le trouve très...
Bah là, c'est le côté extrême, genre vraiment d'interdire et de diaboliser de ouf.
Ouais, mais
Mais
je le trouve
ça.
très bien trouvé. Mieux que
Ouais.
néo-hédonisme. Donc du coup, on peut
Oui,
mettre les deux néo à la
c'est vrai.
suite. Néo-hédonisme et néo-prohibition, on peut dire que ça peut être ça pour 2025. Est-ce que tu avais des choses à rajouter sur cet axe-là?
Non, mais on peut poursuivre sur peut-être, je sais pas si c'est le suivant que tu voulais aborder, mais sur l'aspect plus économique,
Protectionnisme, ouais.
voilà, global, quoi. Donc voilà, je suis désolé hein, pour tous ceux qui nous regardent, qui viennent de déposer une marque à l'INPI et qui, mais il y a quand même plein de motifs des fois d'être pessimiste. Donc bon, on a vu tout ça sur le côté vraiment image d'espie globalement. T'as un autre truc qui nous pend au nez, plus ou moins, c'est en fait comment beaucoup de pays se replient sur eux-mêmes ou se font des petites guéguerres économiques. Et notamment, t'as deux fronts aujourd'hui. Bon, déjà, bon, y a tout le problème avec la Russie où ça a fermé des marchés à plein de producteurs. Ensuite, t'as la Chine qui contre-attaque par rapport à des taxes sur les voitures électriques. En Europe, bah, eux, ils contre-attaquent en taxant notamment les brandys européens, et c'est-à-dire bah, les cognacs, les armagnacs et tout. Donc là, il y a des taxes qui ont été mises en place en octobre. Là, il y a une enquête anti-dumping qui est en cours. Enfin
Sachant que
bref,
ce
et tout
genre
ça
de
part.
catégorie de spiritueux insiste vraiment, enfin en tout cas repose essentiellement sur l'export.
Exactement.
Ouais, donc c'est
Ah bah
compliqué,
là. En gros, aujourd'hui, tu dois avoir quelque chose comme 98% du cognac qui est exporté. Et les deux principaux marchés du cognac, ça va être la Chine et les États-Unis. Et donc on voit que la Chine bah, met en place des taxes pas possibles vis-à-vis des brandys européens, dont le cognac, dont l'armagnac. Et de l'autre côté, tu as Trump qui arrive au pouvoir et qui déclare qu'il va rétablir toutes ces taxes douanières, les tarifs qu'il avait mis en place avant. Pour taxer toutes les importations qui arrivent aux États-Unis et ça où il a déclaré par exemple qu'il allait taxer tous les trucs canadiens et mexicains de 25%, donc ça veut dire la tequila, ça veut dire que le whisky canadien et évidemment bah le whisky écossais qui exporte beaucoup aux États-Unis impacté, la France qui exporte son cognac aux États-Unis potentiellement impacté là, donc c'est plein de trucs à suivre, donc tu vois que t'es un peu tu te dis merde. J'ai relancé ma marque d'Armagnac et je peux plus commercer avec la Russie. La Chine, ça se complique. Les États-Unis, ça va se compliquer. Tu vois? Donc
Il va falloir
bon.
repenser local, 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 quoi. Même
Donc là,
si pour ceux qui
effectivement, tu vois,
exportent.
c'est l'occasion de manière plus positive de un peu repenser les choses. Et comment on marche, quoi. Et puis surtout ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, quoi, clairement.
C'est clair.
Parce que, ouais, que si tu dépends vraiment de ces marchés-là, ça doit piquer sévère.
Est-ce qu'il y aurait quelque chose à dire d'autre sur le protectionnisme économique?
Non, bah là c'était les principaux, c'était les deux gros axes là. Je pense qu'il va
Un peu
falloir surveiller
pessimiste.
là sur ce début de 2025,
Ouais.
parce que c'est vraiment là on est dedans, tu vois. C'est aujourd'hui quoi que ça se passe, tu vois. Trump là c'est ce mois de janvier. La Chine, l'enquête c'est jusqu'au 5 avril, il me semble que c'est étendu. Donc on est en plein dedans dans ces problématiques.
Ok. Du coup, on pourrait avoir un autre axe sur les catégories en vogue et en même temps la protection des catégories. Du coup, en termes de catégories en vogue, est-ce que tu peux nous dire des choses intéressantes?
Alors, peut-être à suivre, là, c'est tout frais aussi, là, ça tombe quasiment en même temps que l'investiture de Trump, c'est que le TTB officialise la catégorie d'American Single Malt, donc potentiellement catégorie à surveiller, parce que typiquement, j'ai vu une info passer que, par exemple, un producteur comme c'est quoi, c'est Limestone, Yellowstone, pardon. Yellowstone Whisky, qui là en ce mois de janvier augmente ses exportations vers l'Europe notamment, justement un peu en réponse au fait que l'American Single Malt Whisky est officiellement une catégorie bien définie, et que du coup ils s'attendent à un boom de la catégorie maintenant. Donc ils exportent davantage. Donc à suivre, hein, ça va clairement donner probablement un petit coup de boost à ça.
Est-ce que ce nom n'existait
Qu'est-ce
pas?
qui...
American Single Malt Whisky, c'était
En
pas
gros, il
officialisé.
existait, il était utilisé, sauf qu'il n'avait pas de définition légale. N'importe qui aux États-Unis faisait un truc et disait bah, c'est de l'American Single Malt, quoi.
Ok.
Alors que maintenant, tu as le Tobacco Trade Bureau, là, le TTB, qui a vraiment défini et marqué dans les textes. C'est quoi la définition d'American Single Malt Whisky? Donc maintenant, c'est comme le bourbon, c'est une vraie catégorie, quoi. Et tu ne peux pas t'appeler American Single Malt Whisky si tu ne réponds pas à un certain cahier des charges en termes de céréales utilisées, de où c'est distillé, de combien de temps, enfin dans quel type de fût, etc.
Ok.
Donc voilà, donc ça va protéger la catégorie, tu vois, il y aura moins de n'importe quoi. Pour les consommateurs, c'est-à-dire qu'au moins quand tu achèteras un American Single Malt, tu sauras à peu près, enfin mieux, de quoi il s'agit. Et voilà.
Ok.
Et un peu dans le même sens, tu as d'autres choses qui vont un peu dans le même sens. Notamment dans le rhum, t'as des. Typiquement, là, il y a Sainte-Lucie qui travaille sur le fait d'avoir une indication géographique. T'as en Jamaïque, pareil, il y a différentes discussions et tout sur le fait qu'il y ait vraiment une reconnaissance en Europe de l'indication géographique du rhum de Jamaïque. T'as Havana Club qui pousse aussi pour une reconnaissance du Niger rhum cubain. Donc il y a aussi tout un mouvement qu'on peut observer comme ça, de plein de catégories qui veulent vraiment être reconnues vraiment légalement, quoi, avec un vrai cahier des charges et tout.
Et qu'est-ce qu'on peut en dire de plus? Est-ce que tu penses que c'est bien? Est-ce que ça fait trop de catégories? Est-ce qu'il faut que ce soit
Non, bah au
reconnu?
moins ça clarifie les choses pour les consommateurs, en fait. Donc d'une part, pour les consos, bah, demain, potentiellement... T'achètes un rhum qui se dit jamaïcain ou un rhum qui se dit cubain, bah tu sais exactement qu'est-ce que ça veut dire. C'est pas juste du bullshit marketing. Au même titre qu'aujourd'hui, quand tu achètes un bourbon, bah un bourbon c'est défini. Quand tu achètes du gin, le gin, il y a une définition légale, tu fais pas n'importe quoi. Et tu vois, c'est aussi pour ça que j'ai un peu cette lubie, tu vois, de dire voilà, attention. Telle marque de sans alcool, c'est pas un gin sans alcool, parce qu'un gin, il y a une vraie question de loyauté consommateur, de quand tu appelles un truc un gin, ça veut dire quelque chose. Quand tu appelles quelque chose vodka, ça veut dire quelque chose. Et c'est pas n'importe qui, tu vois. Sinon, voilà. Sinon, Volvic et Cristaline, demain, ils déclarent qu'ils font de la vodka sans alcool, tu vois. Ça devient le bordel.
Oui, mais
je pense que c'est bien de
ce marché de
boissons choses,
est déjà bordélique. Et je pense que ce que tu dis, c'est une rigueur qui est saine, mais qui ne va pas de pair avec le monde de la Gen Z et de la Gen Alpha, où tous les codes se bousculent, où on s'en fout un petit peu des conséquences. Tu vois ce que je veux dire ?
C'est peut-être. Mais je pense que c'est peut-être une tout ce mouvement-là est la conséquence aussi de ça, c'est qu'il y a un tel bordel que beaucoup se sentent obligés de devoir un moment protéger un minimum, de fixer un cadre pour qu'à un moment, quand on communique tous les deux et qu'on dit Jean, Rome, de tel endroit ou quoi, et ben au moins on parle de la même chose, quoi. Après, ceux qui sont contre les appellations, c'est tout aussi louable. C'est parce que y a l'idée de pouvoir cultiver une forme de créativité. Tu vois, l'American Single Malt, maintenant c'est reconnu, mais il y a alors ça doit être une poignée, hein, mais il y a quelques producteurs qui s'en offusquent parce que ils estiment que c'est un frein à la créativité, au développement, à l'innovation.
On avait vu ça pour le Prosecco dans un épisode de The Bottlefield Show aussi. Ouais. Ouais. Et puis il y a ça pour le champagne, il y a ça pour plein de choses. Mais c'est sûr que redonner des lettres de noblesse à un terroir, non, c'est sûr. Et ça met en exergue un terroir authentique ou peut-être qu'aussi, mine de rien, pour le no-tourisme ou le côté, le côté touristique, ça peut être bien, quoi.
Enfin, tu vois, je sais pas, tu vois, le cognac, c'est protégé. Et puis, ils se sont battus longtemps parce que, je sais pas, en Arménie, les mecs, ils disaient qu'ils faisaient de l'arménien de cognac, tu vois. Sauf que c'est... Bon, ça crée le bazar, quoi. Mmh. Et les mecs qui disent on fait de l'arménien de cognac, ils font un espèce de hack de la notoriété du cognac pour vendre leurs produits. Enfin voilà, tu vois, champagne, bah oui, le champagne, ça vient de Champagne, et puis basta, et il n'y a personne. Enfin, je sais pas, tu vois, que même Apple, je sais pas si tu avais vu ça à l'époque, mais quand ils avaient fait leurs iPhones un peu rosés, là, ils avaient appelé la couleur champagne, justement. C'était des iPhones couleur champagne. Bah, ils ont dû faire machine arrière et ne pas appeler, le truc champagne, quoi. Quand le vin de Bordeaux est vachement protégé aussi comme ça, tu vois. Moi, j'ai une anecdote je radote hein, quand je raconte mes trucs, mais un producteur à Bordeaux de bière qui avait mis sur ses étiquettes que sa bière était faite avec de l'eau de Bordeaux, ce qui était factuellement vrai, il a dû retirer cette mention.
Eau de Bordeaux ?
Voilà. Ouais.
Ah ouais, okay.
Bordeaux, tu peux pas dire Bordeaux comme ça, quoi.
Genre parfum Écossais de Bordeaux, ça passerait pas non plus, du coup.
Bah, je pense pas, ouais. Okay. T'es en train de piétiner les plates-bandes du Bordeaux, quoi.
Okay.
Les Écossais, ils sont vachement agressifs là-dessus aussi, tu vois. Si tu peux pas appeler un truc Glen, alors que Glen, ça veut juste dire colline en anglais, tu vois. Mais Glen, c'est connoté, c'est Glen Fiddich, c'est Glen je sais pas quoi, et c'est égal whisky écossais, tu vois.
Ouais.
Si tu disais Glen, je sais pas, tu crées un whisky super potion et tu voulais l'appeler Glen super potion, tu recevrais sans doute un courrier d'avocat de la Scotch Whisky Association qui te dit non, non, non.
Rien que pour voir si ça arrive, j'ai envie de tester. On verra ça.
Non, ils sont très vénères là-dessus. Bon, on peut le regretter ou l'apprécier, ça dépend de quel côté on se situe.
Et en parlant de catégories en vogue, je crois que tu avais quelque chose sur les craft cocktails aussi.
Craft cocktails, non, ça c'était juste peut-être sur les cocktails on tap plutôt.
Oui. Mais ça fait partie d'une catégorie de...
Une news australienne qui m'avait frappé, c'est une chaîne australienne néo-zélandaise qui a 200 établissements et qui en fait a remplacé là 200 de ces tireuses par des cocktails on tap, c'est-à-dire ils ont remplacé une bière sur 5 par un cocktail à la pression. Donc à cette échelle là je trouve intéressant, même si potentiellement c'est confiné à l'Australie tout ça. Mais voilà, intéressant de voir le cocktail on tap. Moi, c'est un truc qui fait un peu moins de bruit là, mais auquel je crois beaucoup parce que c'est
Moi, j'y
toujours
crois beaucoup
pratique.
aussi. Pour moi, c'est la seule manière de démocratiser encore plus le cocktail. En tout cas,
Ah bah oui.
le côté RTD. Parce que le RTD, je n'ai pas l'impression que ça fonctionne tant que ça en France. Enfin,
Bah,
ça
c'est un
fait un
problème
boom
de
de
taxe en
partout.
France.
Ouais. Mais peut-être que si les gens consommaient de manière plus habituelle au bar des cocktails comme ils consomment des bières, peut-être qu'il y aurait un peu plus de demandes de RTD en France.
Mais peut-être dans ce sens, alors c'est une INO qui date d'il y a quelques années maintenant, mais je relayais ça dans Distill News là tout récemment. C'est une boîte qui s'appelle Quantum qui fait une espèce de, on va dire, comme une espresso mais à cocktail, quoi, qui a levé 5 millions d'euros là ces derniers jours avec le groupe Seb notamment qui est rentré au capital. Donc eux, ils font des machines à cocktail pour les cafés, hôtels et restaurants. Donc
Ok.
pour simplifier le process, faire des cocktails en 30 secondes, quand bien même tu n'aurais pas un bartender qualifié au comptoir, quoi. Donc voilà. Mais peut-être plus discret après, globalement, je sais pas, enfin tu sens tout est un peu plus discret, il y a un peu moins de communication, enfin tu sens que c'est un peu dur quand même pour tout le monde là.
Ouais, non, c'est sûr. Ok, et en termes de catégorie en vogue, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter ou est-ce que tu penses qu'on peut
Non,
passer
mais je
à...
peux passer. Tu vois, j'évoquais juste qu'il y a la tequila qui a peut-être décollé en France là avec Teremana. Je suis curieux. Sans grande distrib, ça peut marcher.
Ok.
Voilà.
Bah,
Moi qui dis souvent que ça marche pas trop parce qu'il n'y a pas d'offre. Bah, si l'offre se développe, on va voir. On verra si c'est ça qui bloquait ou pas.
C'est clair. En parlant de Teremana, ça nous fait une transition toute trouvée sur l'essor des spiritueux de célébrité. C'est quelque chose que tu relayes beaucoup, hein, pour le coup. On peut en citer quelques-uns pour remettre un petit peu dans la tête des gens qui nous écoutent ce qu'on pourrait avoir. Donc, bah, forcément, on a The Rock, hein, Dwayne Johnson, qu'on voit là à l'écran, qui a la marque Teremana, qui est la tequila. On a George Clooney. Le fameux George Clooney. Alors là, il faut que j'enlève le drink IQ à chaque fois, donc ça va me prendre du temps. Donc je vais pas le faire en direct, mais en tout cas, George Clooney qui a Casamigos qui est de la tequila, t'as Ryan Reynolds qui a Aviation Gin qui est, bah, comme son nom l'indique, du gin. Bryan Cranston et Aaron Paul, donc les fameux de
Breaking
Breaking Bad.
Bad, ils ont un mezcal, ouais.
Voilà, ils ont un mezcal qui s'appelle Dos Hombres. Matthew McConaughey qui a Long Branch, c'est un bourbon.
Alors, il est plus dans le Bourbon, lui. Il a lancé sa marque de tequila qui
Pants.
s'appelle Pantalones maintenant.
Pantalones, ok. Parce qu'il me semblait que McConaughey, il avait aussi Pantalones.
Ouais,
Mais.
le Long Branch Bourbon, justement, il a arrêté quand il a lancé sa tequila.
Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Kendall Jenner qui a 808, 818, pardon, qui est aussi une
Une
tequila.
tequila.
Bob Dylan, Heaven's Door, qui est un whisky. Metallica, Black End, qui est un whisky. Jan Sommerhalder et Paul Wesley, qui ont Brothers Band, qui est un bourbon. LeBron James, qui a Lobos 1707, donc 1707. Il y a encore une tequila, et puis encore, on a McGregor, Conor McGregor, qui a Proper Number 12, un Irish whisky. Drake,
Ouais.
Virginia Black, qui a un
Oh, mais il y a un...
whisky. Il y a un bon panel
y
de
en a un
gens, quoi.
paquet. Mais tiens, pour rebondir sur Conor McGregor et tout, il y a un... Bon, là, on va dire que globalement, le fait d'avoir un people, c'est un avantage de dingue pour vendre, quoi. Voilà. Quand bien même, il y en a qui disent que peut-être ça s'essouffle un peu, qu'il y en a un peu too much et que les gens se lassent, qu'ils veulent plus d'authenticité, blablabla. Je pense que quand même économiquement ça cartonne. Mais peut-être juste donner un autre angle de la médaille. Je perds mon français. Revers de la médaille. Voilà. Typiquement, tu vois, sur Conor McGregor, en fait, il est plus du tout impliqué dans Proper 12. parce qu'il a eu quelques soucis judiciaires dernièrement. Donc normalement, il n'est plus du tout impliqué là-dedans. Tu avais
OK.
Didi là, qui était impliqué dans la vodka Ciroc.
Oui, c'est
Pareil,
vrai.
tu as ciao parce que Didi vaut mieux s'en tenir éloigné a priori. Donc tu vois que c'est peut-être un truc qui c'est ce genre de truc qui peuvent faire réfléchir certains entrepreneurs dans le sens où quand tu t'associes à une star. Et bah, quand tout roule, c'est cool. Par contre, quand tu découvres qu'il y a des trucs beaucoup plus obscurs derrière, ça peut nuire à la marque en question, quoi. Donc, avec des
C'est
pincettes.
clair. Et d'ailleurs, est-ce que tu aurais des données sur comment se portent des marques qui auraient pu mal tourner, genre Ciroc, pour le coup, comment on reprend ça
Alors, sur le cas de Ciroc, j'ai pas forcément de données, juste une info où là, à Noël à peu près, il y a une rumeur comme quoi Diageo chercherait à vendre la marque, justement. Donc probablement que tout ça n'est pas étranger à la situation, tu vois.
Ouais, c'est clair.
A priori, les ventes ont baissé. Après, je sais pas la corrélation exacte, tu vois, je serais incapable de le faire. Mais voilà, typiquement, Ciroc potentiellement serait à vendre. Voilà.
C'est marrant que Diageo cherche à vendre plutôt qu'à acheter. C'est déjà arrivé, tu penses, dans le passé? Ils ont déjà revendu des marques plutôt qu'acquéri des marques?
Ah bah oui, ils revendent régulièrement.
Ok, ouais, je
T'as
savais pas.
des, en fait, tu sais, ils font des, re... tu sais, ils acquièrent un truc, et puis à un moment ils se repositionnent. Tu vois, typiquement, si, je sais pas, si leur positionnement c'est de plus en plus vers le luxe. Et bah forcément, ils vont chercher à se débarrasser des marques qui sont moins porteuses de cette image-là, tu vois. Potentiellement, je sais pas, Ciroc, peut-être que Diageo veut, il y a aussi peut-être veut revendre des marques comme Pimm's, tu vois, des choses comme ça. Donc voilà, c'est des repositionnements. Après, ce que je disais dans le Distillcast en décembre, c'est que finalement, je vois passer énormément d'actu sur des groupes qui revendent des marques. Et à chaque fois, c'est le justificatif, c'est A pour se reconcentrer sur le portefeuille premium. Sauf qu'il y a
D'accord.
un autre, revers à cette médaille, c'est que si eux ils vendent, ça veut dire qu'il y a des gens qui achètent. Donc ça veut dire qu'il y a aussi des gens qui visiblement ne se repositionnent pas sur leur parc premium. Donc voilà, tout est un peu.
Il faudrait créer un groupe de
Voilà.
market cheap qui marcherait peut-être méga bien pour le coup.
Mais voilà, enfin tu vois, après il y a des marques pas premium, type Fireball ou tu vois, des choses comme ça. Sauf que d'un point de vue business, c'est des cartons absolus, quoi. Tu vois, ça fait de l'argent, quoi. Donc bon, c'est une question de positionnement.
C'est clair. Autre chose à rajouter sur les speed célébrités ou...
Non, je pense, je sais pas. Moi, je sais pas. Je demande à voir. J'ai l'impression que ça se tasse un peu, ça ralentit un peu, mais en même temps, il y en a quand tu les listes, tu te dis, putain, ouais, non, il y en a. Ça ne s'arrête pas.
Ouais, je crois que j'ai vu quelqu'un d'autre dernièrement.
Mais en tout cas, c'est plus une rareté, quoi. Enfin, c'est plus. Tu vois, à l'époque où George Clooney fait Casamigos, bon, il a revendu depuis, mais
C'est pas Emilia
c'était un
Clarke là de
peu.
Game of Thrones qui a tu viens de relayer ça pour le coup.
Ah oui, qui est l'image d'une marque française d'ailleurs qui s'appelle Pegasus.
Ah mais
Mais qui est.
Pegasus.
Ouais. Pegasus Distillery, qui fait une liqueur, qui fait de la vodka, du gin. Il travaille avec la reine des dragons,
Mais drôle, c'est drôle parce qu'il m'avait
là.
contacté en 2020 ou 2021 Pegasus. Ça me fait tilt maintenant, je savais pas que c'était lui, mais ok, d'accord.
Ouais. Donc, ouais.
On va pouvoir se payer
Donc,
Emilia Clarke,
mais.
je serais intéressé
Bah, écoute,
du deal, du partenariat.
Carrément. Mais en tout cas, j'ai le sentiment que c'est une marque qui markete vraiment sur les États-Unis, notamment.
Ok.
C'est clairement. Enfin, tu vois.
Bah, le segment
Pas.
de ce que j'en avais dans ma tête, segment, c'était vraiment ultra premium, ce qu'ils voulaient
Ouais.
comme genre de marque, donc. Pour le coup, ça fait sens.
Bah, tu vois, les pubs, c'est. Tu sens vraiment le côté produit un peu parfumerie, quoi.
Bah rien que la DA de la photo, là, c'est clair. Ok.
Voilà.
Intéressant. Ça
Mais non,
marche.
rien à rajouter sur les célèbres, célébrités. Je pense, bon, ça marche, en tout cas, j'ai aucun doute que ça marche.
Ouais, bah, de toute façon, c'est
Même
la
s'il y en a
grande
beaucoup.
influence. Et ouais, on parle notamment d'influenceurs de célé, enfin, de marques de célébrités et aussi de plus en plus de nano-influenceurs, genre sur TikTok ou Insta. Le fait de. Ça va dans l'idée de contenu de marque naturelle, authentique, où on va chercher encore plus le nano-influenceur pour faire passer des messages et des valeurs et le côté un peu proximité avec le consommateur final. J'ai vu que c'était des micro-trends dans le marketing, en tout cas ce côté pas aller chercher la personne qui a des millions de followers, mais vraiment ceux qui ont nom dans les 10 000, tu vois, c'est plutôt bien. Et d'ailleurs, on n'a
Bon,
pas
ça
parlé
fait
de ça.
quelques années, ça, mais peut-être plus dur à développer sur les spies. En tout
Ouais.
cas, en France, c'est pas possible.
Ouais, non, c'est sûr.
Enfin,
Mais
on se fait
d'ailleurs,
taper sur les doigts assez rapidement.
en termes de réseaux sociaux, si jamais on pouvait finir là-dessus, ou peut-être pas, parce que je ne sais pas du coup si toi, tu as
Dis-moi.
un insight, vu que je sais que ton Graal, c'est la newsletter, et pour le coup, le mien aussi. En tout cas, c'est pas forcément les réseaux sociaux. Bon, je pense qu'on ne sera pas les meilleurs placés pour parler de tendance réseau dans la filière spiritueux, mais combien même est-ce que tu as vu des choses passer, je sais pas, sur TikTok, Instagram, LinkedIn, pour toi, il vaut mieux être sur quelle plateforme sociale?
Alors là, je pense que tout dépend de tes objectifs, quoi. Pour des trucs pas conso, tu seras plus sur Instagram. Pour des trucs plus B2B, tu seras sur LinkedIn.
En sachant qu'il peut y avoir du bashing sur Instagram, notamment en termes de pub et tout, je pense qu'il faut oublier les pubs
Bah
d'alcool
moi,
sur Insta.
à titre personnel, je sais que. Tu vois, on m'a demandé récemment est-ce que je faisais des sponsors sur Insta et je dis que non, malheureusement, parce que j'ai eu plusieurs cas où en fait je me fais sauter des publications, quoi. Et des fois pour des motifs totalement pas parce que je faisais n'importe quoi, ou bien au contraire, des trucs. Une fois j'ai eu un truc qui était validé par un service juridique et tout. Et pour une raison X ou Y, tu as ton truc. T'as beau payer, ils te prennent l'argent et puis après ils font sauter la publication ou alors ils te l'éliminent de facto ou ils te refusent de la booster. Ou récemment, enfin tu vois, j'ai eu des trucs qu'on sautait, j'ai pas compris pourquoi, soi-disant parce que le lien était trompeur par exemple. Tu vois, genre tu relaies une info très factuelle qui renvoie vers la source factuelle et on te bloque le truc parce que ça serait du spam, tu vois. Ou une fois, j'ai relayé un cocktail et il a été striké, tu sais pourquoi? Pour nudité. Voilà. Donc,
Ok, ouais. Bah, tout le
voilà.
groupe
Donc, en
Meta et
gros,
Instagram et tout, ouais, en termes d'ads.
j'ai fait non. Moi, je ne peux pas me reposer là-dessus pour. Enfin, tu vois, c'est pas viable quoi de faire du business avec ça quoi.
Non, c'est clair. Bah, je pourrais que conseiller toi aussi la newsletter et même du blogging et du content
Alors
marketing autour de sa marque ou
le
de
problème
son.
c'est de développer l'audience quoi. Mais oui, et puis le fait d'Insta, moi j'ai vu d'autres gens à qui ça arrivait aussi. Donc après à voir, tu vois, là ils ont l'air d'assouplir. Avec Trump, leurs règles de modération, donc à voir est-ce que ça sera un peu plus zen. Parce que là, en gros, c'est des bots qui te strike et ils ont des erreurs, ils font des erreurs de ouf, quoi.
Okay.
Donc voilà, je sais pas, enfin, ouais. Abonnez-vous à Distill News au lieu de. Voilà, suivez Distill News sur le site et par mail plutôt que sur Instagram, quoi.
Yes, bah en parlant de ça, pareil sur Studio Black Sounds, j'ai fait des rapports tendance 2024-2025 qui sont toujours, on a pu le voir aujourd'hui, encore d'actualité. Donc vous pouvez aller checker ça sur le site de Studio Black Sounds qui est blacksoundsdesign.com. Si vous arrivez jusqu'à là, merci beaucoup à tous pour votre écoute, votre fidélité et on se retrouve dans un futur épisode de Super Potion. À bientôt.
Ciao, ciao.
Ciao.
J'espère que cet épisode vous a plu. Merci pour votre soutien et votre fidélité. N'hésitez pas à partager l'épisode sur les réseaux sociaux, WhatsApp, Instagram, LinkedIn, etc. Je mets beaucoup d'efforts dans la création de contenus utiles pour la filière boisson. Si ce travail vous satisfait, n'hésitez pas à me le faire savoir ou à mettre des petites étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Pour rappel, les marques intéressées par un épisode dédié peuvent me contacter par mail à l'adresse bossfinal@superpotion.fr. Super Potion est une émission concoctée, produite et réalisée par Studio Black Sounds. C'était Ludo à l'antenne. À la prochaine. Ciao, ciao.